Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Autre rivage est le titre français des mémoires de Vladimir Nabokov, écrivain russe devenu américain. Publié dans une forme russe au milieu des années 1950 après une première rédaction anglaise. Le livre retrace surtout les années qui vont de son enfance privilégiée à Saint-Pétersbourg et dans le domaine familial de Vira jusqu'aux premiers temps de l'exil européen, après la Révolution russe. Il ne propose ni une autobiographie exhaustive, ni une chronique historique suivie. Nabokov y sélectionne des scènes, des lieux, des objets, des passions et des figures familiales afin de montrer comment la mémoire reconstruit une présence perdue. La narration associe précision sensorielle, humour, réflexion sur le temps et art de la composition. Les papillons, les échecs, les langues, les paysages russes et les liens familiaux deviennent ainsi des instruments de connaissance autant que des souvenirs. Le propos central concerne la possibilité de donner une forme littéraire à une vie brisée par le déracinement, sans réduire cette vie à la nostalgie ou aux documents historiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une enfance russe retrouvée par le détail sensible, le noyau du livre réside dans la restitution de l'univers enfantin de Nabokov avant la Révolution. Saint-Pétersbourg, les propriétés de la famille, les précepteurs, les promenades et les rythmes saisonniers ne servent pas de simples décors. Leur évocation repose sur une attention très construite aux couleurs, aux textures, aux sons et aux dispositions spatiales. Cette précision établit une différence essentielle entre mémoire littéraire et inventaire biographique. Un objet ou une sensation peut faire réapparaître tout un réseau de relations, tandis qu'un fait important au regard de l'histoire peut rester secondaire dans le récit. La richesse et la sécurité de son milieu sont reconnues, mais le livre ne les présente pas comme un paradis social à restaurer. Elles constituent les conditions concrètes de perception que la catastrophe historique rendra irrémédiablement lointaine. Nabokov privilégie donc les expériences de formation, notamment la découverte du langage, de la lecture et de la nature. Cette méthode donne à la Russie perdue une densité singulière sans la transformer en décor national abstrait. Le lecteur comprend que le passé survit moins par ses grandes dates que par la netteté sélective avec laquelle une conscience peut en préserver les formes. Deuxièmement, la mémoire conçue comme un art de composition, autre rivage ne traite pas la mémoire comme une archive fidèle qui livrerait spontanément le passé. Nabokov met en scène ses lacunes, ses retours et ses rapprochements inattendus, tout en affirmant le travail formel nécessaire pour faire d'une existence un livre. Les épisodes sont organisés selon des échos visuels, affectifs et intellectuels plutôt que selon une chronologie strictement linéaire. Une image ancienne peut éclairer une scène postérieure et un motif réapparaît afin de révéler une continuité que les événements semblaient avoir détruite. Ce choix ne signifie pas que les faits deviennent indifférents. Il montre au contraire que leur vérité humaine dépend de leur place dans une forme. Le narrateur adulte relie les perceptions de l'enfant sans prétendre les remplacer par une explication psychologique définitive. Il maintient la vivacité du regard enfantin tout en signalant la distance du temps. Cette tension explique la virtuosité du livre et son caractère parfois ludique. Les coïncidences, les symétries et les répétitions y ont une fonction de composition, non de démonstration surnaturelle. Pour Nabokov, écrire ses souvenirs revient à résister au caractère dispersé du vécu par une architecture verbale capable de faire communiquer des instants éloignés. Troisièmement, exil et rupture historique sans récit militant, la révolution russe et le départ de la famille constituent une fracture décisive. Mais Nabokov refuse de bâtir son récit sur une explication politique globale. Il fait sentir la violence de la perte à partir de conséquences concrètes maison abandonnée. Géographie devenue inaccessible, dispersion des proches et nécessité de recommencer ailleurs. Cette retenue distingue son livre de nombreux témoignages centrés sur la reconstitution des événements révolutionnaires. Le bouleversement historique compte d'abord parce qu'il modifie la relation du narrateur au temps. Ce qui fut quotidien devient un territoire mental que aucun retour matériel ne peut réparer. Les années à Cambridge, puis les débuts de la vie émigrée en Europe, prolongent cette réflexion. Elle marque une transition vers une identité d'écrivain, mais ne dissolve pas la conscience de la langue russe ni le poids de la perte. La figure du père juriste et homme politique libéral assassiné à Berlin donne à cette histoire familiale une portée tragique particulièrement nette. Nabokov évite toutefois de convertir le deuil en thèse. Il privilégie la présence intellectuelle et morale du père, ainsi que la précision du souvenir. L'exil apparaît alors comme une condition qui impose une nouvelle forme de fidélité préservée sans figer et continuer à créer sans effacer la séparation. Quatrièmement, papillons. Échecs et perceptions comme école de l'attention, les passions de Nabokov pour les papillons et les échecs éclairent la manière dont il conçoit la perception. La chasse aux papillons, présente dès les souvenirs d'enfance, ne relève pas seulement d'une anecdote pittoresque sur le futur entomologiste. Elle exige patience, mouvement, observation des habitats et capacité à distinguer des nuances infimes. Elle forme ainsi un regard attentif aux singularités que la prose restitue avec une extrême exactitude. Les échecs fournissent un autre modèle, celui de la combinaison, de la prévision et du plaisir tiré des structures cachées. Dans les deux cas, Nabokov refuse les interprétations allégoriques trop simples. Un papillon reste un organisme réel avant de devenir un motif littéraire et un problème échiquéen conserve sa logique propre. Pourtant, ses activités expliquent la discipline de son écriture observée sans généraliser hâtivement, reconnaître les différences et agencer des détails éloignés. Le livre évoque également une sensibilité inhabituelle aux lettres et aux couleurs qui souligne la matérialité sensorielle du langage. Les mots ne sont pas seulement des signes servant à raconter le passé. Ils possèdent une couleur, un rythme et une forme qui participent à la mémoire. Cette alliance de curiosité scientifique, de jeu intellectuel et de précision esthétique est une des signatures les plus reconnaissables de Autre Rivage. En dernier lieu, une autobiographie plurilingue tournée vers la naissance de écrivain, le parcours éditorial de Autre Rivage est inséparable de son sens. Nabokov a d'abord composé une autobiographie en anglais, puis en a élaboré une version russe avant de remanier profondément le texte anglais sous le titre Speak Memory. Ces passages entre langues ne correspondent pas à une simple opération de traduction. Ils impliquent des ajustements de rythme, de perspective et de destinataire, car chaque langue porte une part différente de son expérience. Le livre montre ainsi que l'identité de Nabokov ne peut être enfermée dans une seule appartenance nationale ou linguistique. La langue russe demeure celle de l'enfance, de la famille et des premiers essais littéraires, tandis que anglais devient la langue majeure de sa carrière américaine. Cette situation nourrit une attention exceptionnelle aux sonorités, aux faux rapprochements et aux différences de perception entre langues. Elle éclaire aussi la place de la littérature dans le récit. Les lectures, les premiers poèmes et les rencontres amoureuses ne sont pas traités comme des étapes mécaniques menant à la célébrité. Ils indiquent plutôt comment une conscience apprend à transformer ses émotions et ses observations en forme verbale. Autre Rivage est donc un récit de formation artistique, mais sans légende héroïque. La naissance de l'écrivain y demeure liée à une perte, à une mobilité forcée et à un travail continuel de réécriture. En conclusion, Autre Rivage conviendra aux lecteurs de mémoires littéraires exigeants, aux admirateurs de Nabokov, ainsi qu'aux personnes intéressées par les expériences d'exil, de plurilinguisme et de création autobiographique. Il peut aussi intéresser les lecteurs qui cherchent une approche indirecte de la Russie impériale et de la diaspora russe, le livre apporte moins une synthèse historique que la perception intime des conséquences de la rupture révolutionnaire. Son bénéfice intellectuel principal tient à sa leçon de lecture. Il apprend à considérer les détails sensoriels, les motifs récurrents et les écarts de chronologie comme des éléments actifs de la pensée, plutôt que comme des ornements. Il permet également de comprendre comment une autobiographie peut reconnaître la fragilité de ses souvenirs tout en produire une vérité artistique très rigoureuse. Comparé à des récits de vie plus confessionnels ou documentaires, il se distingue par son contrôle formel, son humour discret et son refus des explications totalisantes. Nabokov ne cherche ni à se justifier ni à transformer son passé en symbole collectif univoque. Sa singularité vient de la rencontre entre une mémoire familiale marquée par la perte, une sensibilité naturaliste très précise et une intelligence de écrivain attentif au jeu de la langue. Cette combinaison fait du livre une porte essentielle vers son univers, tout en lui assurant une autonomie complète parmi les grands récits autobiographiques du XXe siècle. Si vous souhaitez soutenir Vladimir Vladimirovitch Nabokov, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.